Chapitre 10 de la difficulté qu'a un roi de trouver de bons ambassadeurs. Chico, toujours invisible dans son fauteuil, joyeuse à demi couchée sur les coussins, Henri moelleusement pelotonné dans son lit, la conversation commença. « Eh bien, joyeuse, demanda Henri, avez-vous bien vagabondé par la ville ?»«
Mais oui, sire, fort bien, merci, » répondit nonchalamment le duc.
« Comme vous avez disparu vite là-bas, à la grève. »
« Écoutez, sire, franchement, c'était peu récréatif, et puis je n'aime pas voir souffrir les hommes. »«
Cœur miséricordieux !»«
Non, cœur égoïste, la souffrance d'autrui me prend sur les nerfs. »«
Tu sais ce qui s'est passé ?»
Où cela, sire?
En grève.
Ma foi, non.
Ça le cède à nier.
Ah, vous prenez cela bien indifféremment, joyeuse.
Moi?
Oui.
Oh, je vous avoue, sire, que je n'ajoutais pas grande importance à ce qu'il pouvait dire. D'ailleurs, j'étais sûr qu'il nierait.
Et puisqu'il a avoué,
ma raison de plus. Les premiers aveux ont mis les guises sur leur garde, ils ont travaillé pendant que votre majesté restait tranquille, c'était forcé cela.
Comment, tu prévois de pareilles choses et tu ne me le dis pas?
Est-ce que je suis ministre, moi, pour parler politique?
Ah, laissons cela, joyeuse.
Sire, j'aurais besoin de ton frère.
Mon frère est comme moi, sire, et tout au service de votre majesté.
Je puis donc compter sur lui?
Et sans doute.
Eh bien, je veux le charger d'une petite mission.
Hors de Paris?
Oui.
En ce cas, impossible, sire.
Comment cela?
Du Bouchage ne peut se déplacer en ce moment.
Henri se souleva sur son coude et regarda Joyeuse en ouvrant de grands yeux.
Qu'est-ce à dire? Fit-il.
Joyeuse supporta le regard interrogateur du roi avec la plus grande sérénité.
« Sire, dit-il, c'est la chose du monde la plus facile à comprendre. Du Bouchage est amoureux. Seulement, il avait mal entamé les négociations amoureuses. Il faisait fausse route, de sorte que le pauvre enfant maigrissait.
En effet, dit le roi, je l'ai remarqué.
Et il devenait sombre, mordieu, comme s'il eût vécu à la cour de votre majesté. »
Un certain grognement partit du coin de la cheminée, interrompit Joyeuse, qui regarda tout étonnée autour de lui.
« Ne fais pas attention, Anne, » dit Henri en riant, « c'est quelque chien qui rêve sur un fauteuil.
Tu disais donc, mon ami, que ce pauvre du Bouchage devenait triste ?»«
Oui, sire, triste comme la mort. Il paraît qu'il a rencontré de par le monde une femme d'humeur funèbre. C'est terrible, ces rencontres-là. »
Et toutefois, avec ce genre de caractère, on réussit tout aussi bien qu'avec les femmes rieuses. Le tout est de savoir s'y prendre.
Ah, tu n'aurais pas été embarrassé, toi, libertin.
Allons, voilà que vous m'appelez libertin parce que j'aime les femmes.
Henri poussa un soupir.
Tu dis donc que cette femme est d'un caractère funèbre.
À ce que prétend du Bouchage, au moins, je ne la connais pas.
Et malgré cette tristesse, tu réussirais, toi?
Parbleu, il ne s'agit que d'opérer par contraste. Je ne connais de difficultés sérieuses qu'avec les femmes d'un tempérament mitoyen. Celles-là exigent de la part de l'assiégeant un mélange de grâce et de sévérité que peu de personnes réussissent à combiner.
Du Bouchage est donc tombé sur une femme sombre, il a un amour noir.
Pauvre garçon, dit le roi.
« Vous comprenez, sire, continua Joyeuse, qu'il ne m'a pas eu plus tôt fait sa confidence que je me suis occupé de le guérir.
De sorte que,
de sorte qu'à l'heure qu'il est, la cure commence.
Il est déjà moins amoureux.
Non pas, sire, mais il a l'espoir que la femme devienne plus amoureuse, ce qui est une façon plus agréable de guérir les gens que de leur ôter leur amour. »
Et donc à partir de ce soir, au lieu de soupirer à l'unisson de la dame, il va l'égayer par tous les moyens possibles.
Ce soir, par exemple, j'envoie à sa maîtresse une trentaine de musiciens d'Italie qui vont faire rage sous son balcon.
Fi, dit le roi, c'est commun.
Comment c'est commun? 30 musiciens qui n'ont pas leur pareil dans le monde entier.
Oh, ma foi du diable, si, quand j'étais amoureux de Madame de Condé, on m'eût distrait avec de la musique. Oui, mais vous étiez amoureux, vous, sire. Comme un fou, dit le roi. Un nouveau grognement se fit entendre qui ressemblait fort à un ricanement railleur. Vous voyez bien que c'est tout autre chose, sire, dit Joyeuse, en essayant, mais inutilement, de voir d'où venait l'étrange interruption. La dame, au contraire, est indifférente comme une statue et froide comme un glaçon. Et tu crois que la musique fondra le glaçon, animera la statue? Certainement que je le crois. Le roi secoua la tête. Madame, je ne dis pas, continua Joyeuse, qu'au premier coup d'archet, la dame ira se jeter dans les bras de du Bouchage, non, mais elle sera frappée que l'on fasse tout ce bruit à son intention. Et peu à peu, elle s'accoutumera au concert, et si elle ne s'y accoutume pas, eh bien, il nous restera la comédie, les batteurs, les enchantements, la poésie, les chevaux, toutes les folies de la terre, enfin, si bien que si la gaieté ne lui revient pas à cette désolée, il faudra bien au moins qu'elle revienne à du bouchage. Je le lui souhaite, dit Henri, mais laissons du bouchage, puisqu'il serait si gênant pour lui de quitter Paris en ce moment. Il ne m'est pas indispensable pour moi que ce soit lui qui accomplisse cette mission. Mais j'espère que toi, qui donnes de si bons conseils, tu ne t'es pas fait esclave, comme lui, de quelque belle passion. Moi, s'écria Joyeuse, je n'ai jamais été si parfaitement libre de ma vie. C'est à merveille, ainsi tu n'as rien à faire. Absolument rien, sire. Mais je te croyais en sentiment avec une belle dame. Ah oui, la maîtresse de monsieur de Mayenne, une femme qui m'adorait. Eh bien? Eh bien, imaginez-vous que ce soir, après avoir fait la leçon à du bouchage, je la quitte pour aller chez elle. J'arrive, la tête échauffée par les théories que je viens de développer. Je vous jure, sire, que je me croyais presque aussi amoureux que Henri. Voilà que je trouve une femme tremblante, effarée. La première idée qui arrive est que je dérange quelqu'un. J'essaye de la rassurer. Inutile. Je l'interroge, elle ne répond point. Je veux l'embrasser, elle détourne la tête, et comme je fronçais le sourcil, elle se fâche, se lève, nous nous querellons, et elle m'avertit qu'elle ne sera plus jamais chez elle lorsque je m'y présenterai. Pauvre Joyeuse, dit le roi riant, et qu'as-tu fait? Par Dieu, sire, j'ai pris mon épée et mon manteau, j'ai fait un beau salut et je suis sorti sans regarder en arrière. Ah, bravo, Joyeuse, c'est courageux, dit le roi. D'autant plus courageux, sire, qu'il me semblait l'entendre soupirer, la pauvre fille. Ne vas-tu pas te repentir de ton stoïcisme, dit Henri. Oh non, sire, si je me repentais un seul instant, j'y courrais bien vite, vous comprenez, mais rien ne m'ôtera de l'idée que la pauvre femme me quitte malgré elle. Et cependant, tu es parti? Me voilà. Et tu n'y retourneras point? Oh, jamais! Si j'avais le ventre de monsieur de Mayenne, je ne dis pas, mais je suis mince, j'ai le droit d'être fier. Mon ami, dit sérieusement Henri, c'est bien heureux pour ton salut, cette rupture-là. Je ne dis pas non, sire, mais en attendant, je vais m'ennuyer cruellement pendant 8 jours, n'ayant plus rien à faire, ne sachant plus que devenir. Aussi m'a-t-il poussé des idées de paresse délicieuses. C'est amusant de s'ennuyer, vrai, je n'en avais pas l'habitude et je trouve cela distingué. Je crois bien que c'est distingué, dit le roi. J'ai mis la chose à la mode. Or, voilà mon plan, sire. Je l'ai fait tout en revenant du parvis de Notre-Dame au Louvre. Je me rendrai tous les jours ici, en litière. Votre Majesté dira ses oraisons. Je lirai des livres d'alchimie ou de marine, ce qui voudra mieux encore, puisque je suis marin. J'aurai des petits chiens que je ferai jouer avec les vôtres, ou plutôt des petits chats, c'est plus gracieux. Ensuite, nous mangerons de la crème et monsieur d'Épernon nous fera des contes. Je veux engraisser aussi, moi. Puis, quand la femme de du Bouchage sera de triste devenue gaie, nous en chercherons une autre qui de gaie devienne triste. Cela nous changera. Mais tout cela sans bouger, sire. On n'est décidément bien qu'assis, et très bien que couché. Oh, les bons coussins, sire! On voit bien que les tapissiers de votre majesté travaillent pour un roi qui s'ennuie. Fi donc, Anne, dit le roi. Quoi, fi donc? Un homme de ton âge et de ton rang, devenir paresseux et gras, les laides idées.
Je ne trouve pas, sire. Je veux t'occuper à quelque chose, moi.
Si c'est ennuyeux, je le veux bien.
Un troisième grognement se fit entendre. On eût dit que le chien riait des paroles que venait de prononcer Joyeuse.
Voilà un chien bien intelligent, dit Henri. Il devine ce que je veux te faire faire.
Que voulez-vous me faire faire, sire? Voyons un peu cela.
Tu vas te botter.
Joyeuse fit un mouvement de terreur.
Oh, oh non, ne me demandez pas cela, sire, c'est contre toutes mes idées.
Tu vas monter à cheval.
Joyeuse fit un bond.
À cheval, ah non, pas, je ne vais plus qu'en litière. Votre Majesté n'a donc pas entendu.
Voyons, Joyeuse, trêve de raillerie, tu m'entends, tu vas te botter et monter à cheval.
Non, sire, répondit le duc avec le plus grand sérieux, c'est impossible.
Et pourquoi cela, impossible? Demanda Henri avec colère.
Parce que je suis amiral.
Eh bien,
et que les amiraux ne montent pas à cheval.
Ah, c'est comme cela, fit Henri.
Joyeuse répondit par un de ces signes de tête, comme les enfants en font lorsqu'ils sont assez obstinés pour ne pas obéir, assez timides pour ne pas répondre.
Eh bien, soit, monsieur l'amiral de France, vous n'irez pas à cheval.
Vous avez raison, ce n'est pas l'état d'un marin d'aller à cheval, mais l'état d'un marin, donc, est d'aller en bateau et en galère. Vous vous rendrez à l'instant même à Rouen en bateau. À Rouen, vous trouverez votre galère amirale, vous la monterez immédiatement, et je vous ferai appareiller pour Anvers.
Pour Anvers, s'écria Joyeuse, aussi désespérée que s'il eût reçu l'ordre de partir pour Canton ou pour Valparaiso.
Je crois l'avoir dit, fit le roi d'un ton glacial qui établissait sans conteste son droit de chef et sa volonté de souverain.
Je crois l'avoir dit et je ne veux pas le répéter.
Joyeuse, sans témoigner la moindre résistance, agrafa son manteau, remit son épée sous son épaule et prit sur un fauteuil un toquet de velours.
« Que de peine pour se faire obéir, vertu bleue !» continua de grommeler Henri.
« Si j'oublie quelquefois que je suis le maître, tout le monde, excepté moi, devrait au moins s'en souvenir. »
Joyeuse, muet et glacée, s'inclina et mit, selon l'ordonnance, une main sur la garde de son épée.
« Les ordres, sire, » dit-il d'une voix qui, par son accent de soumission, changea immédiatement en cire fondante la volonté du monarque.
« Tu vas te rendre, lui dit-il, à Rouen, où je désire que tu t'embarques, à moins que tu ne préfères aller par terre à Bruxelles. »
Henri attendait un mot de Joyeuse, celui-ci se contenta d'un salut.
« Aimes-tu mieux la route de terre ?» demanda Henri.
« Je n'ai pas de préférence quand il s'agit d'exécuter un ordre, sire, » répondit Joyeuse.
« Allons, boude, va, boude, affreux caractère !» s'écria Henri.
« Ah, les rois n'ont pas d'amis !»
« Qui donne des ordres ne peut s'attendre qu'à trouver des serviteurs, » répondit Joyeuse avec solennité.
« Monsieur, répondit le roi blessé, vous irez donc à Rouen. Vous montrez votre galère, vous rallierez les garnisons de Caudebec, Harfleur et Dieppe, que je ferai remplacer, vous en chargerez 6 navires que vous mettrez au service de mon frère, lequel attend le secours que je lui ai promis.
« Ma commission, s'il vous plaît, sire, » dit Joyeuse.
« Et depuis quand, répondit le roi, n'agissez-vous plus en vertu de vos pouvoirs d'amiral ?»«
Je n'ai droit qu'à obéir, et autant que je le puis, sire, j'évite toute responsabilité. »«
C'est bien, monsieur le duc, vous recevrez la commission à votre hôtel au moment du départ. »«
Et quand sera ce moment, sire ?»«
Dans une heure. »
Joyeuse s'inclina respectueusement et se dirigea vers la porte. Le cœur du roi faillit se rompre.
« Quoi, dit-il, pas même la politesse d'un adieu? Monsieur l'amiral, vous êtes peu civil. C'est le reproche que l'on fait à messieurs les gens de mer. Allons, peut-être aurais-je plus de satisfaction de mon colonel général d'infanterie.
« Veuillez me pardonner, sire, balbutia Joyeuse, mais je suis encore plus mauvais courtisan que mauvais marin, et je comprends que votre majesté regrette ce qu'elle a fait pour moi. »
Et il sortit en fermant la porte avec violence derrière la tapisserie qui se gonfla, repoussée par le vent.
« Ah, voilà donc comme même les gens pour qui j'ai tant fait !» s'écria le roi.
« Ah, Joyeuse, ingrat, Joyeuse !»
Eh bien, ne vas-tu pas le rappeler? Dit Chico en s'avançant vers le lit. Quoi, parce que par hasard tu as un peu de volonté, voilà que tu te repens? Écoute donc, répondit le roi, tu es charmant, toi. Crois-tu qu'il soit agréable d'aller au mois d'octobre recevoir la pluie et le vent sur la mer? Je voudrais bien t'y voir, égoïste. Libre à toi, grand roi, libre à toi. De te voir par vos et par chemin? Par vos et par chemin, c'est en ce moment-ci mon désir le plus vif que de voyager. Ainsi, si je t'envoyais quelque part, comme je viens d'envoyer Joyeuse, tu accepterais? Oh, non seulement j'accepterai, mais je postule, j'implore. Une mission? Une mission. Tu irais en Navarre? J'irais au diable, grand roi. Railles-tu, bouffon? Sire, je n'étais déjà pas trop gai pendant ma vie, et je vous jure que je suis bien plus triste depuis ma mort. Mais tu refusais tout à l'heure de quitter Paris. Mon gracieux souverain, j'avais tort, très grand tort, et je me repens. De sorte que tu désires quitter Paris maintenant? Tout de suite, illustre roi, à l'instant même, grand monarque. Je ne comprends plus, dit Henri. N'as-tu donc pas entendu les paroles du grand amiral de France? Lesquelles? Mais celles où il t'a annoncé sa rupture avec la maîtresse de monsieur de Mayenne. Oui, eh bien, après. Mais si cette femme, amoureuse d'un charmant garçon comme le duc, car il est charmant, Joyeuse, sans doute, si cette dame le congédie en soupirant, c'est qu'elle a un motif. Probablement, sans cela, elle ne le congédierait pas. Eh bien, ce motif, le sais-tu? Non. Tu ne le devines pas? Non. C'est que monsieur de Mayenne va revenir. Oh, fit le roi. Ah, tu comprends enfin, je t'en félicite. Oui, je comprends, mais cependant... Cependant, je ne trouve pas ta raison très forte. Donne-moi les tiennes, Henri. Je ne demande pas mieux que de les trouver excellentes. Donne. Pourquoi cette femme ne romprait-elle pas avec Mayenne au lieu de renvoyer Joyeuse? Crois-tu que Joyeuse ne lui en serait pas assez de gré pour conduire monsieur de Mayenne au pré Auclair et lui trouer son gros ventre? Il a l'épée mauvaise, notre Joyeuse. Fort bien, mais monsieur de Mayenne a le poignard traître, lui, si Joyeuse a l'épée mauvaise. Rappelle-toi, Saint Mégrin. Henri poussa un soupir et leva les yeux au ciel. La femme qui est véritablement amoureuse ne se soucie pas qu'on lui tue son amant, elle préfère le quitter, gagner du temps. Elle préfère surtout ne pas se faire tuer elle-même. On est diablement brutal dans cette chère maison de Guise. Ah, tu peux avoir raison. Ah, c'est bien heureux. Oui, je commence à croire que Mayenne reviendra. Mais toi, Chico, tu n'es pas une femme peureuse ou amoureuse. Moi, Henri, je suis un homme prudent, un homme qui a un compte ouvert avec monsieur de Mayenne, une partie engagée. S'il me trouve, il voudra recommencer encore. Il est joueur à faire frémir ce bon monsieur de Mayenne. Eh bien, il jouera si bien que je recevrai un coup de couteau. Bah, je connais mon Chico, il ne reçoit pas sans rendre. Tu as raison, je lui en rendrai 10, dont il crèvera. Ah, tant mieux, voilà la partie finie. Tant pis, morbleu, au contraire, tant pis. La famille poussera des cris affreux, tu auras toute la ligue sur les bras, et quelque beau matin tu me diras « Chico, mon ami, excuse-moi, mais je suis obligé de te faire rouer. » Je dirai cela. Tu diras cela, et même ce qui est pis, tu le feras, grand roi. J'aime donc mieux que cela tourne autrement, comprends-tu? Je ne suis pas mal comme je suis, j'ai envie de m'y tenir. Vois-tu, toutes ces progressions arithmétiques appliquées à la rancune me paraissent dangereuses. J'irai donc en Navarre, si tu veux bien m'y envoyer. Mais sans doute, je le veux. J'attends tes ordres, gracieux prince. Et Chico, prenant la même pose que Joyeuse, attendit. « Mais, dit le roi, tu ne sais pas si la mission te conviendra. Du moment que je te la demande. « C'est que vois-tu, Chico, dit Henri, j'ai certains projets de brouille entre Margot et son mari. »« Diviser pour régner, dit Chico, il y a 100 ans déjà que c'était l'ABC de la politique. Ainsi, tu n'as aucune répugnance ?»
Est-ce que cela me regarde ? Répondit Chico. Tu feras ce que tu voudras, grand prince. Je suis ambassadeur, voilà tout. Tu n'as pas de comptes à me rendre. Et pourvu que je sois inviolable, quant à cela, tu comprends, j'y tiens. Mais encore, dit Henri, il faut que tu saches ce que tu diras à mon beau-frère. Moi, dire quelque chose ? Non, non, non. Comment, non, non, non ? J'irai où tu voudras, mais je ne dirai rien du tout. Il y a un proverbe là-dessus. Trop gratté. Alors, tu refuses donc ?
Je refuse la parole, mais j'accepte la lettre. C'est celui qui porte la parole qui a toujours quelque responsabilité. Celui qui présente une lettre n'est jamais bousculé que de seconde main.
Eh bien, soit, je te donnerai une lettre. Cela rentre dans ma politique.
Vois un peu comme cela se trouve. Donne.
Comment dis-tu cela ?
Je dis « donne », et Chico étendit la main.
Ah, « ne te figure pas qu'une lettre comme celle-là peut être écrite tout de suite. Il faut qu'elle soit combinée, réfléchie, pesée. »«
Eh bien, pèse, réfléchis, combine, je repasserai demain à la pointe du jour, où je l'enverrai prendre. »«
Pourquoi ne coucherais-tu pas ici ?»«
Ici ?»«
Oui, dans ton fauteuil. »
Peste, c'est fini, je ne coucherai plus au Louvre. Un fantôme qu'on verrait dormir dans un fauteuil, quelle absurdité.
Mais enfin, s'écria le roi, je veux cependant que tu connaisses mes intentions à l'égard de Margot et de son mari. Tu es gascon, ma lettre va faire du bruit à la cour de Navarre. On te questionnera, il faut que tu puisses répondre.
Ah, que diable, tu me représentes, je ne veux pas que tu aies l'air d'un sot.
« Mon Dieu, dit Chico, en haussant les épaules, que tu as donc l'esprit obtus, grand roi.
Comment, tu te figures que je vais porter une lettre à 250 lieues sans savoir ce qu'il y a dedans ?
Sois donc tranquille, ventre de biche, au premier coin de rue, sous le premier arbre où je m'arrêterai, je vais ouvrir ta lettre.
Comment, tu envoies depuis 10 ans des ambassadeurs dans toutes les parties du monde et tu ne les connais pas mieux que cela ?
Allons, mets-toi le corps et l'âme en repos, moi je retourne à ma solitude.
Où est ta solitude ?
Au cimetière des grands innocents, grand prince.
Henri regarda Chico avec cet étonnement qu'il n'avait pas encore pu depuis 2 heures qu'il l'avait revu, chassé de son regard.
« Tu ne t'attendais pas à cela, n'est-ce pas ? Dit Chico, prenant son feutre et son manteau.
« Ce que c'est cependant que d'avoir des relations avec les gens de l'autre monde.
C'est dit, à demain, moi ou mon messager.
Soit, mais encore faut-il que ton messager ait un mot d'ordre, afin qu'on sache qu'il vient de ta part et que les portes lui soient ouvertes.
Ah, merveille, si c'est moi, je viens de ma part, si c'est mon messager, il vient de la part de l'ombre. »
Et sur ces paroles, il disparut si légèrement que l'esprit superstitieux d'Henri douta si c'était réellement un corps ou une ombre qui avait passé par cette porte sans la faire crier, sous cette tapisserie, sans en agiter un des plis.